toujours à l'écoute de Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 19h30 à Paris, 20h30 à Goma, 18h30 temps universel.
Afrique Soir.
Et toute l'actualité du continent africain, c'est avec vous Pierre Boudias. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Nouveau combat dans l'est de la RDC. Les rebelles du M23 revendiquent des avancées dans la région du Lubero. Le processus de paix de Luanda vient pourtant de connaître des avancées. Quel avenir pour le Mozambique? Une semaine après les proclamations des résultats des élections générales, l'opposition poursuit ses appels aux manifestations. Son dirigeant Venancio Mondlane adopte une position jusqu'au boutiste, nous dira un expert. Près de 600 mineurs clandestins arrêtés en Afrique du Sud, ils étaient retranchés dans un puits abandonné depuis plusieurs jours. Les autorités ont coupé leur approvisionnement pour les obliger à sortir. Et puis, clap de fin pour le tour cycliste du Faso, c'est le Marocain Morsine El Kouraji qui s'adjuge le maillot jaune. Vous l'entendrez en fin d'édition. Les rebelles du M23 à la manœuvre dans l'est de la RDC. Le groupe soutenu par le Rwanda a pris ce matin le contrôle de l'agglomération de Kamandjigit dans le territoire de Lubero au nord Kivu, à plus de 130 km au nord de Goma. Ces rebelles se sont emparés de cette ville après avoir lancé une offensive contre les positions des Wazalendo, les milices alliées à l'armée congolaise. Les détails avec Pierre Firsion.
Des combats sont signalés ce soir dans le territoire de Massissi, dont la localité de Kaoura. Des habitants parlent de tirs à l'arme lourde. Plus au nord, des tirs ont également été entendus en début de soirée à Kamandiport, alors que Kamandjigit est tombé ce matin aux mains des rebelles. Ces derniers ont, selon des sources concordantes, mené tôt ce dimanche matin une attaque surprise visant les positions des Wazalendo. Après des tirs à l'arme lourde, les combattants du M23 ont réussi à s'emparer de la ville sans beaucoup de résistance, indiquent des sources locales et sanitaires. Un membre de la société civile de Kamandjigit confie au micro que ces combattants seraient des centaines bien équipés et qu'ils auraient visiblement l'intention de se diriger vers Butembo. Situé au bord du lac Édouard, Kamandjigit ouvre une voie vers le territoire de Beni. Cette offensive opérée par les rebelles a entraîné pour l'heure de nouveaux déplacements de population.
Pierre Firsion, ces affrontements ont lieu alors que le processus de Luanda vient d'enregistrer une avancée. Les experts de la RDC et du Rwanda se sont en effet mis d'accord sur un plan de désengagement des forces et la neutralisation des FDLR, groupe rebelle rwandais formé en RDC. Un accord que les ministres doivent encore valider lors du prochain round de négociations le 16 novembre prochain dans la capitale angolaise. 14 morts en Ouganda après que la foudre ait frappé un camp de réfugiés. Les victimes s'étaient abritées dans une église de fortune dans le nord du pays où s'est abattu un puissant orage. Les victimes étaient âgées d'entre 14 et 18 ans, selon le responsable du district de Lamuo. La plupart étaient issus de la communauté nuer du Soudan du Sud. Nous vous en parlions hier dans Afrique Soir. La situation reste tendue au Mozambique après les résultats des élections générales. L'annonce de la victoire du parti au pouvoir Frelimo et la réélection de Daniel Chapo à la présidence continuent d'être contestées par l'opposition. Son dirigeant, Venancio Mondlane, maintient son appel à paralyser le pays et les affrontements entre ses partisans et la police se sont succédés ce week-end. Ils ont fait 11 victimes depuis le début de la contestation. Nicolas Delaunay est analyste principal sur le Mozambique à l'International Crisis Group. Selon lui, Venancio Mondlane choisit pour le moment une stratégie jusqu'au boutiste.
Dès le lendemain de l'élection, il affirme que c'est lui qui a gagné l'élection. Dans ses discours très longs, qui durent généralement 45-50 minutes sur Facebook, lors desquels il s'adresse à ses supporters, il utilise des mots qui sont extrêmement forts, tels que révolution, sur la nécessité du sacrifice, de passer plusieurs jours sans travailler lors des grèves. Il parle de l'occupation de Maputo, il parle de la possibilité que le peuple prenne le pouvoir, au point qu'on peut même penser que, en fait, Mondlane est en train de s'enfermer, en fait, dans un discours jusqu'au boutiste, qui va pas lui permettre de se sortir de cette situation si jamais il n'obtient pas la présidence, qui est a priori le scénario le plus probable. S'il fait le moindre compromis envers le Frelimo ou envers le gouvernement, il passera auprès de ses supporters comme étant celui qui a fléchi. Et donc voilà, le fait qu'il s'enferme dans cette posture n'est pas forcément heureux pour le potentiel de violence qu'on peut avoir dans le pays et puis pour l'avenir du pays de manière générale.
Le chercheur Nicolas Delaunay. Le Tchad menace de se retirer de la force multirégionale multilatérale mixte composée d'éléments des armées nigérianes, nigériennes, camerounaises, béninoises et tchadiennes, groupe formé en 1994 pour lutter contre le banditisme dans la zone du lac Tchad, puis contre la secte djihadiste Boko Haram. Selon un communiqué de N'Djamena, le gouvernement constate, je cite, une absence de mutualisation des efforts au sein d'une force qui semble tomber dans la léthargie. Fin de citation. Le 27 octobre dernier, une attaque d'une des factions héritières de Boko Haram sur une base militaire a fait au moins une quarantaine de morts dans les rangs de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad. Les exactions se poursuivent dans le centre du Soudan. Les paramilitaires sont accusés d'avoir tué 13 personnes dans la région d'Al Jazeera ce dimanche. Bilan d'une attaque des forces de soutien rapide dans la ville d'Al-Hilaliya, selon une source médicale qui s'exprimait sous couvert d'anonymat. En Afrique du Sud, près de 600 travailleurs qui exploitent clandestinement des sites miniers ont été arrêtés dans la ville aurifère d'Orkney, dans le district Klerksdorp. Alors qu'ils étaient à l'intérieur d'une mine, la police a coupé leur ravitaillement en eau et en nourriture afin de les obliger à sortir et à se rendre. Bonsoir Sidi Yansané.
Bonsoir Pierre.
L'opération est toujours en cours. Les forces de l'ordre espèrent ainsi interpeller des centaines d'autres clandestins.
Oui, selon l'AFP, les agents de la police sud-africaine ont décidé de couper les vivres aux clandestins cachés dans ce puits de mine abandonné de la ville d'Orkney. Les forces de sécurité ont bloqué les voies de ravitaillement qu'utilisent les complices des mineurs et petit à petit, la faim et la soif ont pris le dessus, ce qui a contraint les clandestins à refaire surface avant que les forces de l'ordre les arrêtent. Au total, il y a eu 565 interpellations de Zama-Zama, c'est ainsi que l'on surnomme ces mineurs illégaux, généralement originaires des pays voisins. Cette opération de la police était toujours en cours ce dimanche afin de pousser des centaines, voire des milliers de Zama-Zama à regagner la surface. En tout cas, ce sont les estimations de la police. Sur la dernière année, plus de 13 000 mineurs clandestins présumés ont été arrêtés par les forces de l'ordre et la police a également saisi des sommes en espèces, mais surtout des diamants bruts pour une valeur avoisinant les 2 millions de dollars.
Sidi Yansané, merci pour ces précisions. La Turquie va renforcer ses liens avec les pays africains. Engagement du ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan lors d'un sommet ce dimanche à Djibouti. Il réunissait 14 pays du continent, dont l'Angola, le Tchad, la RDC ou encore le Nigeria. L'occasion pour Ankara d'annoncer que ses échanges commerciaux avec le continent ont dépassé les 35 milliards de dollars. RFI, il est 19h37 à Niamey, le Niger, où le Conseil norvégien pour les réfugiés mène actuellement un projet dans 80 communes en soutien aux services de l'état civil. Il consiste à numériser les actes de naissance, documents administratifs essentiels pour la scolarité et la vie civique. Il est donc crucial de pouvoir le retrouver en cas de perte, par exemple lors de déplacements de population. Un travail de sensibilisation est déjà mené depuis plusieurs années pour l'enregistrement des naissances. C'est ce que nous explique Anne Tréhondard, elle est directrice régionale des programmes de NRC.
Le Niger, c'est un pays où il y a aujourd'hui peu de naissances qui sont enregistrées. 63% des naissances étaient enregistrées en 2023, ce qui veut dire que concrètement, beaucoup d'enfants se retrouvent sans acte de naissance. Et le manque d'acte de naissance affecte leur accès à beaucoup de services, et en particulier à l'éducation. Il empêche les enfants de s'enregistrer à l'école et de passer les différents examens scolaires. Et évidemment, plus tard dans la vie, un acte de naissance est un document essentiel pour exercer les différents droits civiques. L'intérêt de la digitalisation, c'est que ça permet d'éviter tout risque de falsification, mais aussi de perte des documents, notamment en cas de catastrophe naturelle. Le Niger a été affecté par de très importantes inondations. Il y a beaucoup de documents qui se perdent lors de tels événements, mais aussi en cas de déplacement des familles lorsqu'elles doivent partir rapidement pour différentes raisons. Donc le fait que ce soit digitalisé permet d'être assuré qu'on retrouvera dans tous les cas la trace de la naissance et que ce document puisse être réétabli en cas de perte.
Propos recueillis par Magali Lagrange. Et puis le Tour cycliste du Burkina Faso boucle sa boucle. La 35e édition de la compétition s'est achevée aujourd'hui au terme d'une dernière étape reliant Boussé à Ouagadougou. Si c'est le Malien Tiemoko Diamountene qui a remporté ce sprint final, le maillot jaune est lui resté sur les épaules de Morsine El Kouraji. Le Marocain succède au Burkinabé Paul Dumont au palmarès. On écoute la réaction du vainqueur.
La première étape, nous avons gagné le maillot jaune. Et deuxième étape et troisième jusqu'à la fin, toujours travail beaucoup parce que les coureurs, Belgique, Hollande, c'est très très dur. Et nous, garder le maillot jaune à la fin du tour. Je remercie pour mes amis, l'Arbaoui et Driss Lanouani. Le Driss Lanouani a gagné le maillot d'être deuxième et nous, être très heureux parce que il y a beaucoup d'expérience pour nous. Félicitations pour l'organisateur du Tour de Burkina.
Et puis un dernier mot pour vous dire que Sheila Chepkirui remporte le marathon de New York. La coureuse kenyane de 33 ans valide son premier succès majeur en 2h24 et 35 secondes après une dernière accélération qui a laissé derrière elle sa compatriote Hélène Obiri. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur RFI.